voix du Kaizen.
Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine.
L'avantage des thérapies alternatives est d'accompagner des personnes dans leur globalité. Ces thérapies prennent en considération les individus de façon holistique. Elles s'adressent tant au corps qu'à l'esprit. Tous les aspects des troubles, qu'ils soient d'ordre psychologique, physiologique, psychosomatique ou environnemental, sont pris en considération par ces médecines intemporelles. Les thérapies alternatives sont naturelles. Elles permettent de diminuer la consommation de médicaments et de réduire les effets secondaires liés au traitement allopathique. Souvent, elles accompagnent le corps et l'esprit vers l'auto-guérison. Marion Rebera s'est formée en psychothérapie, puis dans différents voyages, elle s'est initiée au chamanisme et aux plantes médicinales, notamment en Amérique du Sud. Aujourd'hui, Marion propose un accompagnement et des soins holistiques.
Bonjour, je pense que j'ai été intéressée et même passionnée par l'être humain très jeune, parce que j'ai eu de la chance d'avoir une famille, notamment une grand-mère, qui m'a invitée très jeune à raconter mes rêves. Quand j'avais un bobo, un mal de tête ou un mal de ventre, à aller regarder dans le livre des significations thérapeutiques. Donc évidemment, ça plante des graines. Après, j'étais un peu une enfant sauvage, un peu avec différents espaces. Alors ma mère m'a proposé d'aller voir un psy. Et puis le psy lui a dit, mais peut-être que c'est aussi vous qu'il faudrait aller voir en tant que parent. Donc ma mère a commencé un chemin. Et puis en grandissant, à l'adolescence, ma mère m'a partagé aussi ses compréhensions, ses prises de conscience, donc on a aussi cheminé ensemble. Donc voilà, entre une maman et une grand-mère paternelle, ça a ouvert des espaces à l'intérieur de moi, ça m'a permis de lire d'autres livres. Et puis j'ai commencé après, dans l'adolescence aussi, à être accompagnée avec une thérapeute qui pratiquait le rebirth. Donc c'est une thérapie par la parole et le souffle. Donc tout ça, ça m'a plongée aussi à l'intérieur. Et ça m'a amenée à vouloir comprendre plus, découvrir plus, et transformer avec plus de lumière qui on est et qui je suis, surtout. Et après, en terminale, il fallait faire un dossier, etc., avec l'histoire et la philo, et je ne sais pas pourquoi mon être a été inspiré de faire quelque chose autour des hommes médecine et des guérisseurs, notamment, qui se trouvent en Mongolie, donc les chamans, sans savoir vraiment ce que c'était. Donc j'ai commencé là-dessus. Évidemment, les profs n'ont pas trop accroché, mais c'était là, c'était autour de moi. Et ensuite, j'ai été à la fac de psychologie, donc j'ai fait 3 ans de psycho. Ça m'a apporté, ça m'a nourri, et puis à ce moment-là, j'ai voulu ouvrir un espace de voyage à l'extérieur, donc je suis partie en voyage. D'abord en Angleterre, mais ça a été un premier pas déjà vers autre chose. Et puis, ça m'a permis aussi de sentir que j'avais besoin de revenir, de continuer d'apprendre avec cet outil de la thérapie, de la connaissance de soi, mais un peu plus précis que la fac. Et donc j'ai suivi une école de psychothérapie multiréférentielle pendant 3 ans de plus.
Psychothérapie multiréférentielle ?
C'est-à-dire que souvent quand on est psychothérapeute, on a un outil particulier. Soit on est sophrologue, soit on étudie l'hypnose, soit on étudie la PNL, soit le coaching. Et donc j'ai été dans une école qui m'a permis d'avoir une boîte à outils. J'ai vu la sophrologie, j'ai vu la PNL, j'ai vu l'analyse des rêves, et c'était une école de coloration jungienne. Donc j'ai eu acquis une multi-référence avec différents outils. Et à partir de là, et en parallèle, en parallèle de ça, j'ai continué à m'intéresser à écouter des conférences et à être formée à des différentes techniques énergétiques, ou à les découvrir, ou les aborder, etc. Et puis, le voyage étant toujours à l'intérieur de moi, j'ai recommencé à voyager. Je voulais aller au Mexique, puis finalement, la vie toujours bien faite m'a amenée au Pérou. Et là, j'ai commencé à découvrir d'autres manières d'envisager la Terre, d'autres manières d'envisager ma propre Terre, d'autres manières de concevoir, de recevoir le monde, l'univers, et l'univers qu'à l'intérieur de moi. Et puis, de fil en aiguille, des rencontres, des hommes et des femmes médecines, ici et là. J'ai été aussi en Inde, j'ai été en Israël, j'ai été en Égypte. Tout ça, ce sont des pays avec des manières de sentir ce chemin de vie qui m'ont nourri et m'ont transformé. Et que aujourd'hui, j'ai à cœur de partager et d'accompagner sur cette vision plus globale et plus holistique, justement.
Quand tu partais en voyage, donc tu avais cette intention de rencontrer un des hommes médecine ou de t'ouvrir sur quelque chose de nouveau, ou quelle était l'intention que tu posais dans tes déplacements?
Oui, bah, la première fois donc, que j'ai quitté le continent européen, c'était vraiment dans cette idée-là, en fait. Je ne savais pas du tout ce que j'allais découvrir, parce que je connaissais très peu de choses. J'ai quand même commencé à 19 ans, justement, grâce à ma maman, à être sensibilisée aux huttes à sudation, enfin la voie rouge, la voie Lakota, en fait, et avec les huttes à sudation et les voyages au tambour. Donc j'ai commencé, comme ça, à 19 ans, à être initiée à travers cet espace. Et après, en allant au Pérou, je ne connaissais pas leur médecine, je ne connaissais pas leur manière d'accompagner l'autre et de nettoyer, de guérir nos corps. Et là, voilà, la vie a fait que voilà, des rencontres, on en a amené d'autres et j'ai atterri dans un espace où j'ai découvert encore d'autres manières de voir, de concevoir et de recevoir tout ce qui nous habite.
Mais quand je t'écoute, quand je t'entends parler, donc là on part dans plein de directions différentes. On parle de psychanalyse, on parle de PNL, on parle d'hypnose, tu me parles de chamanisme. Donc dans tout ce qui est thérapie, finalement, il y a facilement moyen de s'y perdre. Comment est-ce qu'on peut s'y retrouver quand on se rend compte de la diversité des outils qu'on retrouve sur la surface de la planète?
Alors c'est une question qu'on me pose souvent. Je pense qu'il y a énormément d'outils, en effet, à notre disposition. Donc, et des outils qui parlent à autant de personnes qu'il y a ici. L'idée, c'est juste de sentir qu'est-ce qui est juste pour moi. Souvent, on met la tête et on dit, voilà, mais il y a tellement de choses que je m'y perds. Moi, je propose, c'est de pouvoir dire, ok, aujourd'hui, j'ai besoin d'être accompagnée pour telle ou telle chose. Donc, de pouvoir identifier mon besoin. Est-ce que j'ai besoin de plus parler? Est-ce que j'ai besoin d'être plus touchée? Est-ce que j'ai besoin d'être sur... Est-ce que l'énergétique me parle plus que l'analyse? De sentir déjà qu'est-ce qui est juste pour moi. À partir de là, je peux commencer à voir autour de moi les personnes, les accompagnants, les thérapeutes qui se trouvent autour de moi et demander à mes amis, mes connaissances, s'ils ont déjà, s'ils connaissent quelqu'un et qui pourraient me conseiller. Et puis après, si je trouve un nom ou deux, trois personnes, je peux aller voir leur site internet et de sentir si ça me parle. Moi, je propose toujours d'être à l'écoute de si ce que la personne me dit, ce que la personne me renvoie me parle. Dans ce cas, je peux aller essayer. Je pense qu'il faut y aller de manière simple et s'écouter de manière aussi intuitive et simple. Et on y va, et si à la première rencontre on ne nous parle pas, on a le droit de dire non et d'arrêter et d'essayer une personne qui peut nous convenir. Voilà.
Comment ça se passe quand quelqu'un vient te voir d'ailleurs? Qui vient te voir? Avec quel type de problématique? Et comment va se passer une séance de soins ou de thérapie? Ou comment est-ce qu'on pourrait l'appeler cette séance?
Alors moi j'appelle ça l'accompagnement holistique. Alors ça dépend... Comment on vient me voir, si on vient me voir avec une demande vraiment d'être accompagné pour un mieux-être. Moi, je dis souvent qu'on n'a pas besoin d'attendre d'aller mal pour aller mieux. La parole est souvent au centre. Et puis après, il peut y avoir... j'utilise aussi beaucoup les parfums, les encens, les sons, parce que pour moi, ce sont des modulateurs vibratoires. Et ils vont donc aussi agir sur les autres corps énergétiques. Et puis arriver sur le corps physique. Et puis il peut y avoir aussi le toucher à certains moments qui peuvent aider aussi à débloquer des nœuds énergétiques qui sont là. Donc une séance, souvent la personne elle arrive et puis on a toujours un temps de parole qui peut durer le temps de la session et à la prochaine ça peut être différent. Ou alors il y a un soin justement avec les sons, avec les chants et les parfums.
Tu utilises souvent à plusieurs reprises le mot holistique. Est-ce que tu peux me le définir? Qu'est-ce que c'est qu'un être holistique?
C'est de considérer un être humain dans un ensemble, c'est-à-dire qu'on n'est pas une partie séparée, on n'est pas une partie coupée. Si j'ai mal au ventre, je ne suis pas juste un ventre avec une molécule à tel endroit qui a mal. Si j'ai mal au ventre, c'est peut-être parce que je suis stressée, peut-être parce que j'ai mangé des aliments qui ne se décomposent pas très bien à l'intérieur de moi, peut-être parce que je manque d'exercice. Et le mot holistique demande à ouvrir et de considérer l'être humain dans une généralité et dans un tout qui est relié. Et on n'est pas séparé, notre bras n'est pas séparé de notre pied, notre œil n'est pas séparé de notre foie, et nos cheveux ne sont pas séparés de nos hormones. Et tout ça, c'est de pouvoir le regarder dans un ensemble, dans une vue d'ensemble. Et je trouverais ça super le jour où les différents... sachant les différents médecins, je ne parle pas de la médecine allopathique, mais différents médecins se mettent main dans la main pour regarder ensemble et accompagner une personne. voilà, sur un chemin global.
Est-ce que tu as l'impression d'une convergence entre médecine allopathique et médecine holistique ?
Aujourd'hui, je trouve que la convergence ne se fait pas beaucoup et qu'il y a encore beaucoup trop de séparativité entre la médecine allopathique et la médecine, les médecines alternatives ou naturelles. Et je trouve que c'est dommage parce qu'on pourrait vraiment avancer main dans la main.
Et donc trouver une vraie complémentarité, parce que la médecine allopathique peut être aussi très efficace.
Tout à fait. L'idée, ce serait de pouvoir trouver une complémentarité. Quand certains médecins allopathes connaissent ont telle connaissance sur telle chimie, sur tel médicament, et peut agir dans l'instant, de pouvoir se mettre main dans la main avec un psychologue, par exemple, ou de manière beaucoup plus générale et beaucoup plus automatique, pour aller voir ce qui se passe au niveau émotionnel, au niveau du vécu, au niveau de l'histoire. Est-ce que c'est pas une résurgence d'un traumatisme au moment de ma naissance qui fait qu'aujourd'hui j'ai telle problématique ou tel symptôme? Donc évidemment, ce serait super.
Donc toi, tu parles beaucoup du côté émotionnel, donc c'est pas tellement une blessure physique, hein. Les gens peuvent venir parce qu'ils se sont coupés le doigt, et on peut te venir pour un bobo plus profond.
Bah, des fois, ils peuvent venir parce qu'ils se sont coupés le doigt. Ça va être la première demande. Voilà, je me suis fait telle égratignure. J'aimerais essayer de la guérir. Mais souvent, la première demande cache une autre demande qui n'est pas encore montée à la conscience et qui peut revenir. Souvent, voilà, on peut venir en disant voilà, aujourd'hui, j'ai une difficulté avec ma fille qui a 15 ans. Mais en fait, quand on va avancer, on va se rendre compte que l'adolescente va renvoyer quelque chose de ma propre histoire, de l'histoire du parent, et puis va révéler aussi l'histoire de ma propre enfance, ma relation avec mes parents. Et donc aussi, en ayant conscience de tout ça, en mettant à jour, ça va dépressuriser. Avec des actes rituels, on va pouvoir aussi défaire des histoires de fidélité qui se répètent. Là, c'est un exemple du transgénérationnel, par exemple, mais ça peut être, il peut y avoir différents exemples et différentes situations. Et qu'en général, ça ne s'arrête pas au premier regard et à la première blessure qu'on voit tout de suite.
Vous écoutez La Voix du Kaizen.
Marion, quand je te rencontre ou quand je vous rencontre, je prends vraiment conscience de cette complexité, de cette diversité, de ce qu'est l'être dans son ensemble, de ce qu'est l'être humain. Je vais me mettre à la place de celui qui, dans sa vie, sent bien qu'il y a une sorte de mal-être ou que l'équilibre ou l'alignement n'est pas là, n'est pas présent, et qui a envie de commencer un travail en profondeur sur soi, sur son être intérieur. Et cette personne, qui va peut-être produire un schéma ou avoir une phobie, une peur qu'elle va nourrir et qui va l'empêcher d'avancer sur le chemin de ses rêves, se retrouve face à une telle multitude de thérapeutes, de thérapies différentes. Comment faire pour y voir clair? Donc si moi, auditeur, j'ai aussi envie de commencer à me lancer sur le chemin de la guérison, par quoi commencer?
C'est une très bonne question. Je pense que l'essentiel, c'est de pouvoir s'écouter. Alors, comment on s'écoute? Déjà, de prendre du temps. Je pense qu'on est dans un rythme qui est assez effréné. La société nous donne un rythme assez effréné où on fait, et quand on s'arrête, on continue à regarder des écrans, à lire des messages, etc. etc. On ne se pose pas et on ne s'arrête pas quelques instants, souvent parce qu'aussi on a peur de nous, dans cet espace de silence et de solitude. Mais je pense que déjà, pouvoir se poser, s'arrêter, faire silence et écouter, ça va nous donner des indications un peu plus sur quelle direction je peux prendre et par où je peux commencer. Alors après, ça va revenir aussi à ce que je disais tout à l'heure sur comment choisir un thérapeute pour m'orienter vers telle ou telle voie ou telle manière d'être accompagné. Mais pouvoir se poser déjà, s'arrêter quelques instants. Et si on aime la nature, pour moi, la nature, la terre-mère est vraiment un espace de guérison en tant que tel. Et sortir dans la nature, aller se poser près d'un arbre et rester une heure en silence, assis là et d'écouter. D'écouter ce qui va nous tracasser, d'écouter que c'est difficile, même d'être assis là en silence pendant une heure sans bouger, d'écouter nos pensées, et d'écouter que le silence peut se faire aussi. Et c'est déjà un premier pas vers soi. Voilà.
Et ensuite ?
Ben ensuite, c'est d'aller regarder, comme j'ai dit tout à l'heure, autour de soi, qu'est-ce qui existe, et puis d'écouter des émissions de radio, et puis de regarder quelques vidéos sur Internet, et puis c'est d'être à l'écoute, comment ça me parle à l'intérieur.
Toi, Marion, qu'est-ce que tu utilises comme outil? Qu'est-ce qui te parle le plus? Dans toutes les techniques, dans tout ce que tu as rencontré à travers tes différents voyages, qu'est-ce que tu as retenu et qu'est-ce que tu essaies de réutiliser ou qu'est-ce qui te parle le plus?
Je pense que aussi depuis quelques années, mon oreille s'est développée. Donc, j'entends les mots de la personne, j'entends ses mots et j'entends au-delà des mots. Donc ça, c'est déjà un fondamental dans l'accompagnement qui va me permettre de faire un retour à la personne en questionnant, en disant « qui parle à travers toi à ce moment-là ? Qui agit à travers toi à ce moment-là ?» Et d'aller, par un questionnement aussi, aller interroger chaque fois un peu plus en profondeur pour ça, pour révéler à la personne ce qu'elle est et ce qu'elle porte. Donc, cet espace d'écoute et de retour, c'est pour moi important. La présence, c'est... Je pense qu'en tant qu'accompagnant ou accompagnante, on est là parce que nous sommes. Pas forcément parce que l'on fait ou ce que l'on a acquis, mais parce que l'on est. Et pour moi, c'est un fondamental aussi qu'un thérapeute ou un accompagnant ait fait un travail sur lui un certain nombre de temps. Parce qu'il y a des psychologues aujourd'hui, à la fac, on est psychologue, on propose de faire un travail sur soi, mais ce n'est pas une obligation. Pour moi, c'est un essentiel, c'est un fondamental. Parce que c'est mon être qui va accompagner l'autre. Je ne suis pas à moitié là. C'est mon être tout entier qui va être en présence et va pouvoir faire la différence entre est-ce que ça parle de moi en tant que personne, en tant que Marion, ou est-ce que je suis bien à l'écoute de la personne en face et de sa problématique et que je ne fais pas d'amalgame. Voilà, donc ça c'est déjà pour moi essentiel. Ensuite, l'espace énergétique, il peut se matérialiser de différentes manières par la présence aussi. Et par le chemin que j'ai effectué et que je continue d'effectuer. Tout ce que je chemine et tout ce que je transforme pour moi est au service, en fait. Est au service de la personne et des personnes qui viennent jusqu'ici. Voilà, après, quand c'est un accompagnement plus holistique, les chants et le son, parce que voilà, j'ai connu... des personnes qui utilisent, notamment en Amérique latine, beaucoup les chants comme support médecine, qui vont aller dans différentes dimensions de l'être pour fluidifier, pour éclairer, pour aider à la transformation. Et les parfums aussi et les encens sont des bons amis pour accompagner. Voilà.
Marion, pourquoi tu es thérapeute? Qu'est-ce qui fait que tu t'es dirigée vers ça? Est-ce que c'est quelque chose que tu avais, donc, enfin, on parlait un peu de ton enfance et tu disais que tu as grandi avec une famille qui t'a déjà orienté vers une ouverture. Mais pourquoi est-ce que tu te sens, pourquoi est-ce que tu as choisi d'être thérapeute aujourd'hui?
Je sais pas si ma tête a choisi que je sois à la place où je suis. Je pense que c'est mon chemin. Je pense que je suis à ma place. Je suis sur la voie qui est là pour moi. Je pense que j'ai fait d'autres jobs, j'ai eu différents postes à différents endroits et c'est là où je suis le mieux, en fait. Ce que j'ai découvert, ce que j'ai transformé pour moi, j'ai envie de le mettre au service. C'est une évidence. Voilà, donc c'est la réponse que je peux donner.
Devant nous, un bouquin, Marion Rebera, Danse, mon étoile, danse. Qu'est-ce que c'est ?
C'est un livre qui est sorti en 2014, après justement différents voyages. Et quand je suis rentrée de là, j'étais tellement remplie, tellement nourrie, tellement voilà, pleine d'un amour et d'une gratitude pour ce que j'avais vécu, que j'avais vraiment envie et besoin de partager ça. Donc au début, je voulais faire des conférences, je voulais partager avec des mots. Et puis, pour commencer à structurer ma pensée, j'ai commencé à écrire. Et comme j'écris depuis que je sais écrire, j'écris beaucoup. Ça, c'est fini en livre. Voilà. Et donc aujourd'hui, c'est un roman initiatique dans lequel on suit un personnage qui s'appelle Marjane de la Terre. Cette histoire est très inspirée de la mienne. Et c'est un partage justement, un partage de voyage intérieur-extérieur, un voyage transformateur initiatique à travers des voyages dans différents pays du monde et différentes rencontres qui ont nourri mon être. Voilà.
Est-ce que tu peux partager une de tes expériences ou une expérience que Marjane va vivre dans ce livre ?
Ouais, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ok, je vais partager une expérience. Donc, dans ces différents moments où je suis allée en Amérique latine, j'ai été aussi en Amazonie avec des hommes médecine. Et j'ai vécu des moments que j'appelle des diètes, c'est-à-dire qu'on va dans l'Amazonie, on vit dans un petit tambo. Donc, c'est une cahute avec deux murs et un toit en feuilles de palmier, un lit et une moustiquaire. C'est tout. Et pendant un certain nombre de jours, je suis toute seule ici. Et l'homme qui est mon gardien passe me voir une fois par jour avec un petit bol d'eau de riz. Et je diète des plantes qui vont m'aider à transformer mon corps physique et à guérir des espaces et à apprivoiser le monde du rêve et de la vision. Et dans ces espaces... je suis en relation avec cette nature, avec la mère terre, avec tous les insectes, tous les bruits de l'Amazonie, tous ceux qui rentrent dans ma cahute sous la moustiquaire. Et je suis en lien et confrontée à mon mental qui s'agite les premiers jours beaucoup, jusque parfois à toucher des espaces peut-être un peu fous, à toucher l'ennui, jusqu'à ce que l'ennui soit à son maximum et là un espace de créativité s'ouvre. Aller rencontrer la puissance du cœur et puis la puissance de mes ombres et de mon obscurité. Ça, ce sont des moments qui ont été forts pour moi parce que je suis seule avec moi et seule avec la terre. Et la terre m'enseigne. La terre me montre les cycles que j'ai aussi à l'intérieur de moi et qu'aujourd'hui on oublie parce qu'on est un peu trop coupé de la nature. Et donc on ne sait plus que... après l'été, il y a l'automne, et après l'automne, il y a l'hiver. Et que tout meurt, et que tout s'éteint. Mais après, il y a le printemps, et ça recommence. Donc d'être confronté à la vie, d'être confronté à la mort, d'être confronté à la naissance. Et dans ces espaces voilà, de tombeau, ça fait un peu d'être dans un tombeau, et voilà, j'apprends. J'apprends, je suis enseignée, et je grandis, et je mature dans ces espaces-là qui ont été très forts et très riches pour moi.
Donc ça, c'est des expériences qui sont possibles. N'importe qui peut aller en Amazonie ou au Pérou ou je ne sais plus dans quel pays tu as vécu cette diète et vivre cette expérience. C'est quelque chose qui est accessible.
C'est quelque chose qui est accessible, mais ce n'est pas fait pour tout le monde. Je pense que là aussi, c'est très important de pouvoir être à l'écoute. Et puis, si on se sent appelé par ça, c'est OK. Si ça ne l'est pas, c'est très bien aussi. Et puis, c'est toujours pareil, c'est de trouver les bonnes personnes au bon endroit et... d'être à l'écoute de ça. Voilà.
Comment on trouve les bonnes personnes au bon endroit ?
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je peux juste dire que moi, j'ai eu vraiment les bonnes personnes au bon endroit et la vie a fait pour moi. Donc, je ne peux pas dire plus que comment trouver les bonnes personnes. Parce qu'il y a une personne qui sera juste pour moi et cette personne ne le sera pas pour une autre. Donc, tout ça, c'est une histoire de rencontre.
Qu'est-ce que c'est que pour toi un être vivant, un être humain ?
C'est... Tu as dit être vivant, et je pense que c'est de l'énergie. C'est de l'énergie en mouvement. Et après, être vivant, c'est être une pierre, une plante, un animal, un être humain, une étoile. C'est de l'énergie en mouvement. C'est de l'énergie qui est reliée à d'autres énergies, que ce soit à travers notre air, déjà. C'est bien l'élément qui nous relie tout sur la Terre, c'est celui-là. Et... c'est de la transformation. Voilà.
Et quand tu observes le monde dans lequel on vit, le monde autour de toi, cette déconnexion est réelle. Les gens ne sont pas du tout dans cette vision, dans cette forme de conscience. Tout le monde s'agite à courir après le temps, à gagner de l'argent pour pouvoir subvenir à ses besoins sans avoir cette ouverture plus spirituelle.
Oui. Je pense que chacun, moi je suis pas là pour faire pour le monde ni pour les autres, je suis un colibri. Voilà, j'adore cette image, je suis un petit colibri qui fait sa goutte, qui va prendre sa goutte et qui va aller l'amener là où il y a besoin. Et j'ai, malgré toute cette effervescence un petit peu sans conscience, je reste hyper confiante. J'ai hyper confiance dans l'avenir de cette terre, même si l'humanité n'y reste pas, parce qu'elle se sera autodétruite. J'ai confiance dans le cycle, dans les cycles qui me dépassent, moi, en tant que petit être humain, petite fourmi dans l'immensité du monde. Et c'est OK, je fais ma goutte et je fais mon travail et je fais mon chemin de conscience. Et puis, si à côté, ça court et que ça n'a pas cet espace, c'est OK, j'accueille. C'est aussi une partie de moi. Et je regarde le monde et ce monde me parle aussi d'une certaine partie à l'intérieur de moi. Donc, je continue à œuvrer, à sculpter, à transformer avec le plus de patience que je peux avoir, le moins de jugement possible, parce que des fois, j'en ai aussi, mais voilà, en restant dans cette simplicité et de continuer à marcher.
La voix du Kaizen. Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine.